VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 25 avril 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
L'ONU est contre la décision de Kinshasa de publier la vidéo des assassinats de deux experts onusiens en mars dernier en RDC.
Les États-Unis débuteront demain le retrait de leurs forces engagées dans la recherche de Joseph Kony de la LRA en Afrique centrale.
Au Mali, le CICR a suspendu temporairement ses activités dans la région de Kidal en raison de l'insécurité.
Au Burkina Faso, l'ex-premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw et 34 de ses ministres, dont celui de la Défense, l'ex-président Blaise Compaoré, sont cités à comparaître jeudi devant la Haute Cour de justice.
Le président Donald Trump a convoqué mercredi à la Maison-Blanche l'ensemble des 100 sénateurs américains à l'ordre du jour la Corée du Nord.
Et ne manquez pas le reportage de notre envoyé spécial au Niger, Nicolas Pinot, notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis débuteront demain le retrait de leurs forces sécuritaires déployées depuis 2011 dans l'est de la Centrafrique dans la lutte contre la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA de Joseph Kony. Le temps est venu de passer à autre chose étant donné que la LRA est vraiment en train de se battre pour sa survie, a expliqué selon la AFP lors d'une conférence de presse téléphonique le général Thomas Waldhauser à la tête du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM.
Les Nations Unies ont critiqué hier la décision des autorités de la République démocratique du Congo de présenter une vidéo montrant, selon Kinshasa, les assassinats de deux experts de l'ONU tués en mars dans le pays. Pour le porte-parole Stéphane Dujarric, cette décision pourrait gêner l'enquête. Les autorités congolaises avaient montré à la presse quelques heures plus tôt cette vidéo d'environ 2 minutes dans le but apparent d'écarter les soupçons qui pèsent sur Kinshasa dans cette affaire.
En Angola, le Conseil de la République, organe présidentiel qui mène des consultations sur les décisions à caractère national, a proposé le 23 août comme date pour les prochaines élections générales du pays. C'est ce qu'a rapporté hier la Radio Nationale. Le président José Eduardo dos Santos, 74 ans, va quitter le pouvoir après 38 ans à la tête du pays, deuxième producteur de pétrole brut d'Afrique. Il lui revient de donner son feu vert à la date du 23 août. Son parti, le MPLA, a choisi le ministre de la Défense, João Lourenço, 63 ans, comme candidat à la présidentielle.
Au Mali, le CICR a suspendu temporairement ses activités dans la région de Kidal après le plus récent cambriolage dont a été victime son unité installée dans la ville de Kidal. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Cela fait 3 ans que la région de Kidal échappe à tout contrôle du gouvernement malien. Malgré cette situation, certaines ONG travaillent dans cette région, non sans peine. C'est ainsi que le lundi 24 avril 2017, la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR à Kidal a été cambriolée par des individus vers 4h du matin. Face à cette situation d'insécurité, la Croix-Rouge a décidé de suspendre temporairement ses activités dans la région de Kidal jusqu'à nouvelle. Considérant qu'il s'agit du deuxième cambriolage en moins de 3 mois, nous pensons qu'il s'agit d'un problème général de sécurité dans l'environnement de Kidal. Décision a donc été prise de suspendre temporairement toutes les activités de la sous-délégation de Kidal. Cette décision ne touche pas les activités urgentes, notamment à l'hôpital de Kidal, car une suspension à ce niveau aurait de graves conséquences humanitaires, a déclaré Jean-Nicolas Marty, chef de la délégation de CICR au Mali. Malheureusement, le CICR demeure l'une des rares organisations présentes sur la place et à fournir une assistance humanitaire dans la région de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, un gouvernement entier devant des juges, l'ex-premier ministre Luc Adolphe Thiaw et 34 de ses ministres, dont l'ex-président Blaise Compaoré, en tant que ministre de la Défense, sont cités à comparaître devant la Haute Cour de justice jeudi pour un procès spectaculaire sur la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime. M. Compaoré vit depuis en exil à Abidjan. Son avocat français, Pierre-Olivier Sûr, sera à Ouagadougou pour le défendre.
Au Cameroun, les avocats du journaliste Ahmed Abba, correspondant en langue Haoussa de RFI, comptent interjeter appel ce mardi après sa condamnation hier à 10 ans de prison ferme. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a reconnu coupable de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Le syndicat national des journalistes du Cameroun en appelle à la clémence des autorités. Timothée Donangmaï a joint à Douala Denis Kouébo, président de ce syndicat.
Le syndicat national des journalistes camerounais en appelle à la clémence du chef de l'État parce qu'il a le pouvoir de faire arrêter les poursuites contre notre confrère qui a déjà passé beaucoup de mois en prison. Il a d'abord été détenu au secret, ensuite traduit devant le tribunal militaire pour des faits dont les éléments de preuve matérielle ne nous ont pas été rapportés. Donc nous attendons pas seulement à ce que la cour d'appel fasse le contraire de ce que les juges militaires ont fait. Il faut que le gouvernement de la République du Cameroun entende raison parce que à travers le Cameroun, les journalistes, les amis des journalistes à l'étranger, l'employeur RFI de Ahmed Abba, le comité pour la protection des journalistes, tous les médias du monde entier sont en train de dire que la fonction journalistique n'est pas une fonction criminelle et à un moment donné, nous, journalistes et vous ailleurs, on n'a pas eu l'impression que notre confrère était impliqué dans une activité terroriste.
Les États-Unis et l'Union africaine estiment que le temps pour assumer sa propre sécurité approche rapidement pour la Somalie. Le général Thomas Waldhauser, commandant de l'Africom, a déclaré lors d'une téléconférence depuis Stuttgart en Allemagne que l'envoi prochain de 40 militaires américains en Somalie ne signifie pas un changement de stratégie. Il s'agit, dans le cadre d'un déploiement de routine, d'un rôle de soutien à l'entraînement de l'armée nationale somalienne, a-t-il expliqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord, toujours en tête de l'agenda international du président Donald Trump, le chef de l'exécutif américain a convié mercredi à la Maison-Blanche l'ensemble des 100 sénateurs américains pour les informer à ce sujet. Précision de Michel Joseph.
La séance de briefing de la Maison-Blanche sera conduite par le secrétaire à la Défense Jim Mattis, son collègue du département d'État, Rex Tillerson, le directeur national du renseignement, Dan Coats, et le chef d'état-major interarmé, le général Joe Dunford. Lors d'un déjeuner lundi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le président Donald Trump a qualifié d'inacceptable le statu quo en Corée du Nord. Le Conseil doit se préparer à prendre des sanctions plus vigoureuses contre les programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang. Le chef de l'exécutif américain a tenu ses propos après des entretiens téléphoniques avec les leaders du Japon, de la Chine et de l'Allemagne. Le président Trump et les autres responsables américains n'ont cessé de répéter que toutes les options sont sur la table pour, disent-ils, résoudre le problème des provocations nord-coréennes.
La Maison-Blanche est très confiante qu'il n'y aura pas de shutdown ou fermeture partielle du gouvernement à la fin de la semaine à cause d'une dispute budgétaire sur le financement du mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. L'opposition démocrate est contre, mais le président Donald Trump a indiqué hier qu'il est prêt à repousser sa requête au mois de septembre. M. Trump a promis la construction de ce mur pendant sa campagne pour lutter contre l'immigration illégale et le trafic des stupéfiants. Il avait assuré aussi que le Mexique paierait pour ce mur.
Toujours aux États-Unis, Guy Philippe, un ancien haut fonctionnaire de la police haïtienne, a plaidé coupable hier de blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue. C'est ce qu'ont déclaré des responsables américains. Guy Philippe, célèbre pour avoir mené un coup d'État en 2004, a été récemment élu sénateur dans son pays. Il est détenu à Miami, en Floride, depuis son arrestation et son extradition d'Haïti au mois de janvier.
En France, la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, a annoncé qu'elle renonçait temporairement à la direction du Front National pour pouvoir se présenter comme candidate pour tous les Français, au-dessus de toutes les considérations partisanes. Elle a pris cette décision 24 heures après sa qualification pour le second tour de la présidentielle face au centriste Emmanuel Macron. Pour la première fois dans l'histoire moderne de la France, la présidence va revenir à un membre d'un parti non traditionnel, reflétant un sentiment anti-establishment similaire au Brexit en Grande-Bretagne ou à l'élection de Donald Trump ici aux États-Unis. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Les envois de fonds des migrants vers les pays en développement sont en recul pour la deuxième année consécutive, d'après la Banque mondiale, ce qui confirme une tendance inédite depuis trois décennies. L'ABM estime à 429 milliards de dollars les envois de fonds officiellement enregistrés en 2016, contre plus de 440 milliards en 2015, soit en recul de 2,4%. Les envois vers l'Afrique subsaharienne ont fléchi de 6,1% l'an dernier à 33 milliards de dollars, le Nigeria demeurant le pays ayant reçu le plus de fonds avec 19 milliards. Safaricom, le plus important opérateur kényan de télécommunications, a indiqué hier avoir rétabli la plupart de ses services, dont les appels et la messagerie texte, après une interruption de son réseau à travers le Kenya. La compagnie n'a pas expliqué l'origine de la panne. Safaricom compte 26 millions d'abonnés et domine le secteur des services financiers, notamment avec sa plateforme M-Pesa qui a révolutionné le transfert d'argent mobile. Mais récemment, l'opérateur a révélé avoir échappé à une attaque cybercriminelle. La Côte d'Ivoire veut passer d'1,5 à 5 millions de touristes en 2020. En marge d'une récente réunion tenue par le Club de développement Afrique du groupe bancaire panafricain Ateja Riwafa Bank, le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, a annoncé l'accroissement du fonds de développement touristique, actuellement à hauteur de 100 millions de francs CFA.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football en Coupe d'Allemagne, deux outsiders s'affrontent en demi-finale.
Disons un choc de géant Idrissa, disputé sur un seul match avec prolongation et tir au but si nécessaire. Ces demi-finales opposent ce soir Mönchengladbach, le 10e du championnat, Francfort le 9e. Et demain, de monstres sacrés du football allemand, Munich et Dortmund. L'enjeu sera énorme pour le Bayern et pour Dortmund, l'un et l'autre éliminés de la Ligue des Champions en quart de finale. Les Bavarois en tête de la Bundesliga ne pourront sauver leur saison qu'en réussissant un nouveau doublé coupe-championnat. Dortmund, troisième et distancé pour le titre, n'a plus que la coupe pour s'offrir un trophée cette saison et peut-être oublier l'attentat du 11 avril qui a traumatisé l'équipe.
34e journée en Espagne, l'Atlético contre Villarreal.
De l'alerte rouge en tête du championnat d'Espagne, le leader Barcelone et le Real Madrid doivent rester en alerte après le Clásico remporté dimanche par les Catalans, 3 buts à 2. Et l'Atlético Madrid, troisième de la compétition, doit impérativement gagner ce soir contre sa bête noire, le sous-marin jaune de Villarreal. Conserver la troisième position est synonyme de place directement qualificative pour la Ligue des Champions face à la menace de Séville, quatrième place avec 65 points.
En Italie, l'AS Rome officialise la nomination de son directeur sportif.
Il s'appelle Ramon Rodriguez Verdero, dit Monchi, ancien gardien de but du FC Séville. Le club espère bénéficier de l'expérience d'un des plus brillants recruteurs de la planète football dès le prochain mercato.
Un ancien vice-président de la FIFA saisit le tribunal arbitral du sport dans le scandale qui a terni l'image de l'organisation du football mondial.
C'est le sud-coréen Chung Mong-joon qui conteste sa suspension de 5 ans de toute activité liée au football, tant au niveau national qu'international. Il a été reconnu coupable d'infraction dans le cadre de l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Cette condamnation avait mis fin à la candidature de l'héritier de la famille Hyundai à l'élection présidentielle de la FIFA de 2016. Et avec vous, Idrissa, la suite des playoffs en NBA.
Conférence Est, Toronto bat Milwaukee 118 à 93. Toronto mène ainsi la série 3 victoires à 2. Les Atlanta Hawks battent Washington, les Wizards de Washington, 111 à 101. Les deux équipes sont maintenant à égalité, deux victoires partout. Et dans la conférence Ouest, eh bien, Alea Yakta Est, les jeux sont faits. Les Golden State Warriors ont battu Portland 128 à 103, éliminant ainsi les Trail Blazers avec quatre victoires consécutives.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebutea, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Alors que la force de Boko Haram semble amoindrie ces derniers mois, il y a certaines parties du territoire nigérien qui ont été épargnées par l'insurrection djihadiste. C'est le cas de Ngekmi, où s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinot.
Tango, donc il faut immobiliser le véhicule là et vous procédez comme d'habitude à la fouille, donc minutieusement. Vous rendez compte à l'issue.
Le soleil est levé depuis peu sur Ngegmi, mais cette patrouille de l'armée nigérienne est déjà à pied d'œuvre aux aurores.
Darouane.
À sa tête, le lieutenant Ismaël et ses hommes arrêtent un véhicule pour vérifier l'identité des passagers et engager la conversation. Ce genre de contact avec la population est essentiel pour recueillir des renseignements, assure le jeune gradé nigérien.
Avant d'aborder les localités le plus souvent, les premières personnes sur lesquelles on tombe, on essaie d'établir le contact avec elles, de les rassurer, de demander certains détails, certains renseignements.
Ici, pas de risque de tomber nez à nez avec Boko Haram, puisque le groupe djihadiste a plutôt épargné les alentours de Ngegmi depuis le début de l'insurrection. Les populations collaborent avec l'armée, elles ont mis en place des comités de vigilance, comme l'explique le chef de canton de Ngegmi, Maina Inusamanga.
Dans notre département, pour le moment, c'est calme. Les BH n'ont jamais pu pénétrer dans notre ville pour nous faire du mal. Vraiment, dans la région, vraiment, le département le plus calme, c'est le département de Ngegmi. Bon, grâce à nos prières et puis avec la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les différents chefs de village qui sont en brousse, les éleveurs, tout le monde en train de communiquer avec les forces de défense et de sécurité pour donner les renseignements.
Même son de cloche de Boulama Ali Abdou, VOA Afrique a rencontré ce chef de village aux alentours de Ngegmi.
L'armée nous sert de bouclier contre les ennemis grâce aux militaires. On vit en harmonie avec nos familles ici. Depuis qu'on est ici, on n'a eu aucun problème. Les patrouilles de l'armée nous rassurent.
Ici, les déplacés nigériens ont en grande partie dû évacuer les îles du lac Tchad. Beaucoup ne demandent qu'à retourner chez eux pour pêcher ou faire de l'élevage comme avant. Boula Mamadou, du site de déplacés de Kimigana.
L'assistance alimentaire qu'on nous donne, c'est pour un mois. Il y a même des gens qui n'ont rien. Avec les familles que nous avons parfois, c'est difficile de joindre les deux bouts.
Loin des tensions et des attaques qui ont eu lieu le long de la frontière avec le Nigeria, entre Difa et Bosso, Ngegmi espère garder longtemps sa quiétude. À 40 km de là, les opérations de la force mixte se poursuivent dans les îles du lac Tchad pour nettoyer les derniers sanctuaires de Boko Haram. Depuis Ngegmi au Niger, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, c'est en 2020 que doit prendre fin le second et dernier mandat du président Alassane Ouattara. Mais à 3 ans de cette échéance, le débat sur la succession du président ivoirien est ouvert depuis quelques mois au sein du RHDP, la coalition au pouvoir. Précision de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
2020, c'est encore loin, mais cette échéance est déjà dans tous les esprits. Pas un jour ne passe sans que des cadres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ou du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, n'épiloguent dans la presse sur la succession de l'actuel chef de l'État. Bien qu'alliés au sein de la coalition au pouvoir, chacune de ces formations voudrait que le futur président soit issu de ses rangs. Au PDCI, on met en avant l'appel de Daoukro, un appel lancé en 2014 par Henri Kona Bédié et qui appelait à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. En contrepartie, le PDCI avait plaidé pour une alternance à son profit en 2020. C'est Ibrahim Bakongo, ancien ministre et cadre du RDR.
Ce que le PDCI demande, c'est dans l'ordre des choses. Le PDCI veut être à la tête de l'État, c'est tout à fait normal. Tout comme le RDR fait tout pour être à la tête de l'État en 2020.
Pour l'analyste politique André Silver Conan, au aucun acte formel n'existe entre les deux partis politiques en vue d'une alternance en 2020.
Moi, je dis toujours aux gens, montrez-moi le test par lequel le PDC est fondé à revendiquer une alternance à son profit. Le deal de l'appel de Daokro est un deal qui se passe entre deux personnes, Henri Konan Bédier et Alassane Ouattara.
La question pourrait cependant être tranchée dans le cadre du parti unifié que les deux formations entendent mettre sur pied. Si c'est Ibrahim Bakongo.
Nous avons terminé la rédaction des textes. Certainement qu'il va nous être demandé de retravailler sur tous les textes que nous avons déjà élaborés. Mais ceux qu'on a déjà élaborés, nous les avons déposés depuis septembre 2016. Le reste, c'est un travail de sensibilisation essentiellement sur le terrain.
André-Sylvain Konan, lui, ne croit pas en la création de ce parti unifié.
Je ne crois pas parce que les uns et les autres ont des ambitions personnelles. Les gens font prévaloir leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt du groupe. Il n'y aura pas de parti unifié tant que les deux têtes fortes du RHDP ne se déterminent pas clairement dans ce sens.
Au PDCI, on ne veut plus de débats sur la place publique. Le parti a annoncé il y a quelques jours qu'il investirait l'an prochain son candidat à la présidentielle de 2020. Quant au président du Parlement ivoirien Guillaume Soro, à qui l'on prête une ambition présidentielle, il juge indécent et inopportun ce débat sur la succession du président Ouattara. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Guinée-Bissau, la population est de plus en plus impatiente face à la persistance de la crise politique qui a commencé en août 2016 à la suite de la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Domingo Simoes Pereira. M. Pereira appartient au même parti que son rival pourtant, le président José Mario Vaz, le PIGC vainqueur des dernières élections législatives de 2014. Noam Mankali.
Face à cette crise politique qui continue de persister en Guinée-Bissau, Ismaël Sadio Barry, un des commerçants grossistes, a souligné que la crise politique a atteint un niveau que le peuple bissau-guinéen n'attendait pas.
C'est déplorable parce que les gens n'avaient jamais pensé que cette crise va durer comme le mois qu'il a consommé. Nous, les bissau-guinéens, les citoyens, notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est de voir les acteurs politiques des ententes pour trouver un chemin afin que le pays sorte dans cette situation parce qu'on a marre, on est très fatigué, rien ne marche, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de conditions sociales pour que les gens continuent à vivre normalement.
Cependant, Filiberta Tavares et Maria Emilia Sambou, membres de la société civile et responsables d'une association juvénile respectivement, ont souligné que la situation sociopolitique du pays est devenue très triste car les dirigeants politiques sont en train de maltraiter la population bissau-guinéenne. Elles ont expliqué pourquoi.
Depuis que cette crise a commencé, c'est tout le monde qui en sent. On est fatigué, même très fatigué. Les politiciens ne voulons pas s'asseoir autour d'une même table pour discuter et surmonter rapidement cette crise. Avec la crise, il y a des familles qui mangent qu'une seule fois par jour. C'est triste.
Nous sommes très fatigués avec cette crise politique qui continue de persister en Guinée-Bissau. La crise va bientôt faire 2 ans car tout est dans l'impasse. C'est nous qui en sommes des victimes. Ces dirigeants politiques n'ont pas pitié de nous. Ils nous maltraitent. Actuellement, le président Joma ne s'entend pas avec le président de l'Assemblée nationale populaire, Spriano Kassama. Nous avons la grève un peu partout au niveau de l'éducation, de la justice et même la santé.
Contacté par VOA Afrique, Spriano Kassama, président de l'Assemblée nationale populaire, a accusé le chef du gouvernement bissau-guinéen, Omar Sissoko Embalo, d'insubordination hiérarchique.
Monsieur le Premier ministre lamente informer que l'union même de son exécutif fera présente à quelques commissions spécialisées.
Face au blocage des différentes institutions, ces responsables sollicitent l'appui de la communauté internationale pour sortir de cette crise sans solution.
Je lance un vibrant appel à la classe politique pour trouver une solution. Cet appel aussi dirigé à la communauté internationale, qu'elle nous aide, sinon ce peuple finira pour mourir. C'est un désespoir total, car on n'avait pas voté pour être dans une telle situation aujourd'hui, presque 3 ans.
On rappelle que notre reportage a essayé de contacter la réaction du chef du gouvernement, Omar Sissoko Embalo, qui malheureusement se trouve actuellement au Maroc. Noa Mankali Bissau, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, malgré la baisse des cas de violences sexuelles au Nord Kivu, la prise en charge et l'accompagnement des victimes continuent à l'hôpital Heal Africa de Goma. Elles reçoivent des soins tout en suivant une formation qui leur permettra de se lancer demain dans de petites activités génératrices de revenus telles que la coupe et la couture. De Goma, Charlie Kasereka.
La grande majorité des victimes qui sont soignées ici arrivent des milieux ruraux où les groupes armés font encore la loi. Elisabeth, 22 ans, handicapée de son état, regard perdu, assise dans une chaise roulante, elle a été violée à deux reprises et engrossée par les rebelles de la région de Beni. Malheureusement, après l'accouchement, elle souffre de la fistule.
Ils sont arrivés dans le village, tout le monde avait déjà fui. Moi, je n'ai pas réussi à m'enfuir comme je suis handicapée. Ils m'ont violée. Et la deuxième fois, ils ont même emporté aussi l'argent que je gardais à côté.
En plus du traumatisme subi par l'acte, certaines d'entre elles ne peuvent plus rentrer dans leur milieu d'origine suite au stigma érigé. Au centre et l'Africa, l'accompagnement n'est pas seulement médical. Elles sont aujourd'hui une quarantaine dans l'atelier de coupe et couture, accompagnées de leurs encadreurs, chacune d'elles avec son histoire. Ici, tout est question de technique, douceur et tolérance pour ces victimes devenues vulnérables dans leur propre communauté.
Dans cet atelier, nous formons les mamans comment coudre leurs vêtements. Nous avons choisi de les former pour leur épargner de la vulnérabilité. Et puis aussi pour les plus en charge. Aujourd'hui, nous encadrons 40 personnes. Toutes sont vulnérables.
Les multiples sensibilisations et les renforcements des lois en la matière ont favorisé la chute des cas de violence à l'est de la RDC. Docteur Justin enregistre tous les nouveaux cas ici à Heal Africa, les grands centres hospitaliers spécialisés dans les soins et accompagnement des victimes de violences sexuelles au Nord Kivu.
Pour le moment, je peux recevoir par mois 60 à 40 cas ici à l'hôpital Heal Africa. En fait, à l'époque, c'était vraiment beaucoup.
Le gouvernement congolais a créé une police spéciale de la protection de l'enfant et de la femme pour punir sévèrement les coupables. Depuis 15 ans, cette police exerce au Nord Kivu. Le commissaire Mutayonga Josaphat est le numéro 2 de la police spéciale de la protection de l'enfant ici au Nord Kivu.
Par rapport à l'année passée, on avait enregistré pour le mois de janvier 31 cas. Mais pour le mois de janvier de cette année, il y a eu seulement 14 cas. Vous constaterez qu'il y a une amélioration. La population dénonce puisqu'ils savent qu'à notre niveau, ils ne vont rien payer.
La stigmatisation des victimes de violences sexuelles reste encore un combat pour les activistes dans ce domaine, alors que les viols restent encore un sujet tabou dans la communauté. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall.
Ce mardi marque le centenaire d'Ella Fitzgerald. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
In the summer, when it sizzles.